sent sale, qui voudra rattraper l'histoire en son envol. Et c'est la vie, la mort ont le même visage, et l'avenir se dessine entre ruine et carnage. Que les pages du Coran explosent de lumière, je vous implore Allah, ils ont volé ma terre. Si la vie m'a mis là, c'est qu'elle doit vouloir ma peau. Si la vie m'a mis là, c'est qu'elle doit avoir ma peau. L'espoir inondé de louanges. Les voisins vous démons, je vous sais être un ange. Nourri par les prophètes les plus impitoyables, qui ravent sur nos cœurs les cendres du diable.
Moi qui n'ai que ma vie à offrir en cadeau, je ferai de mon âme le plus grand des oiseaux, poussé par le soleil.
Libérons l'horizon.
J'userai de ma vie comme un de leurs canons.
Si la vie m'a mis là, c'est qu'elle doit vouloir ma peau. Si la vie m'a mis là, c'est qu'elle doit avoir ma peau. Complainte de nos femmes, espoir d'enfants martyrs, qui jettent dans les âmes des lambeaux d'avenir. Blessure trop profonde pour être pensée comme un appel au monde ou à la liberté.
Regarde de sa main, regarde ce que l'enfant dessine,
ce que l'enfant dessine,
le monde de demain,
le monde de demain avec la Palestine.
Regarde,
regarde de sa main,
ce que l'enfant
regarde
dessine,
ce que l'enfant dessine,
le monde de demain,
le monde de demain avec la Palestine.
Avec la Palestine.
Regarde,
regarde
de sa main, ce que l'enfant dessine,
le monde
de demain avec la Palestine.
Avec la Palestine.
Regarde,
regarde de sa main, ce que l'enfant dessine,
de demain avec la Palestine.
Retrouvez le podcast du Café Féministe de Radio HDR sur Spotify et YouTube.
Retour sur l'émission avec mes invités. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Je vais endosser le rôle de l'avocat du diable et je vais vous soumettre les idées des personnes qui pensent que porter le voile n'est pas féministe. C'est des idées générales, c'est un petit peu les idées les plus populaires. Peut-on parler de choix quand une fille est élevée depuis l'enfance dans une norme religieuse qui valorise le voile ? Certains parlent plutôt d'endoctrinement culturel que de liberté individuelle. Qu'en pensez-vous ?
Cette histoire d'endoctrinement, je crois que c'est une façon de justifier l'injustifiable. Il faut rappeler quand même, concernant le culturel, que dans la religion catholique aussi, les femmes portent un foulard quand elles sont dans des lieux de culte. Elles portent le foulard quand elles sont en deuil, enfin bon, etc. Donc c'est pas propre spécifiquement et intrinsèquement à la religion musulmane, cette histoire de foulard ou de voile. Mais c'est vrai aussi qu'aujourd'hui on assiste à des replis identitaires en fait. C'est-à-dire que lorsqu'une population est surstigmatisée, comme l'a rappelé Christine tout à l'heure, comme vient de le faire Marie-Vonne aussi, lorsqu'une partie de la population est stigmatisée en raison d'une essentialisation liée à une religion, eh bien, la tendance est à se replier sur une identité pour se sentir plus fort, moins faible. Il est là surtout le phénomène. Donc, c'est pas tant de l'endoctrinement culturel que une façon de se replier sur le groupe, un groupe d'appartenance pour faire face à la violence des discriminations.
Si on prend ce présupposé-là au départ, est-ce qu'on pense que le meilleur service à rendre à ces jeunes femmes qui seraient endoctrinées, etc., etc., c'est de les empêcher d'aller à l'école ? Parce que c'est ça qui... Enfin, franchement, ça va pas. Ça va pas dans ce truc-là. Parce qu'il y a à la fois un discours qui les présente comme des victimes, et en même temps quelque chose qui n'est absolument pas une solidarité, et qui est plutôt quelque chose qui va dans le sens de l'enfermement. Donc franchement, sur ces histoires d'interdiction, rien ne va. Et par ailleurs, là encore, qu'est-ce qui va permettre le mieux de se dire « eh ben j'ai le droit de choisir », si ce n'est de se retrouver avec les siennes, celles avec qui on peut en discuter, mais avec lesquelles on peut parler, mais en confiance, sans être jugé, sans être stigmatisé. Voilà, donc ça ne marche pas, ça ne marche jamais.
Oui, puis je rajouterais aux deux copines qui viennent de parler, le contexte géographique et politique est très très important. Le voile n'a pas la même signification ici ou dans les pays où il est imposé, comme en Afghanistan ou en Iran. Mais il n'a pas du tout la même signification. Et il y a unanimité des féministes pour soutenir les femmes de ces pays qui refusent l'obligation de porter le voile. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Et on assure notre solidarité justement sur le choix que doivent avoir les femmes et celles qui luttent pour leur liberté. Il n'y a aucune ambiguïté sur cette question.
Justement, vous venez de répondre à une idée aussi qui perdure dans l'esprit des personnes contre. Si c'était féministe, pourquoi tant de femmes dans des pays comme l'Iran ou l'Afghanistan risquent-elles leur liberté ou leur vie pour pouvoir l'enlever ?
Elle est la question de l'obligation. Les féministes iraniennes, elles se battent contre l'obligation du port. Elles ne se battent pas contre les femmes qui portent le voile. Donc ça, c'est la première. Et là encore, derrière la question du voile et dans les mobilisations extraordinaires, il faut souligner les mobilisations extraordinaires des femmes iraniennes, ce mouvement Femmes, Vie, Liberté, qui était aussi emblématique de la résistance de la société iranienne par rapport, oui, à ce qu'est une dictature théocratique, qui est un mouvement, certes, où se pose la question de l'obligation du port du voile, mais pas que, puisque dans un premier temps, c'est y compris les questions nationales. Alors en particulier sur la question kurde, mais pas que, il y a d'autres minorités nationales en Iran, c'est aussi ces questions-là qui sont posées, puisque la jeune femme qui était à l'origine de ce mouvement Vie, Liberté est une jeune femme kurde. Et donc ce mouvement-là, il est aussi profondément pluriel, au sens où c'est évidemment la question du voile qui est posée, mais plus d'une certaine manière comme symbole de l'oppression et de la répression, mais qui charrie aussi des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, les questions d'égalité sociale, les questions d'accès à l'éducation, etc., etc. Et toutes les questions qu'on a trait avec l'austérité, la difficulté à vivre, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de voir comment, mais comme dans plein d'autres pays, les femmes se sont portées à la tête de ces mobilisations qui sont globalement des mobilisations pour la liberté, pour l'égalité.
Pour en avoir discuté avec certaines qui disaient « oui, mais les femmes voilées, etc., vous soutenez », il ne faut pas nier qu'une infime minorité des femmes voilées, une infime minorité, il y a derrière des fondamentalistes religieux qui ont une stratégie politique. Il ne faut pas l'oublier. Mais il y a des fondamentalistes religieux, pas que du côté de l'islam. Il ne faut pas oublier ce qui se passe du côté d'Israël, où les femmes avec les orthodoxes montent au derrière des bus, et même quand elles montent dans les mêmes bus, où c'est un État qui a déclaré que la religion, c'est un État religieux, on va dire démocratique peut-être parce qu'il y a les élections, ce n'est pas une garantie totale, mais c'est un État totalement religieux. Donc les fondamentalistes de tout poil, y compris catholiques, on les voit à l'œuvre aujourd'hui dans les mouvements anti-avortement, sont contre les femmes. Alors, un coup, c'est le voile, un autre coup, c'est autre chose. Voilà. C'est-à-dire, ça, il ne faut pas le nier. Et ça a été une erreur de certains groupes, je dirais d'extrême-gauche, je n'ai pas peur de le dire, parce que bon, moi, je me situe plutôt aussi à gauche de la gauche, hein, de penser que derrière ça, il y avait une réponse commune entre ces courants d'islamisme radical et la lutte contre l'impérialisme. Ça, ça a été une erreur. Mais ce n'est pas honteux de le dire, de reconnaître cela. Et donc, les fondamentalistes et les intégristes n'ont jamais, et y compris les personnes LGBTI qui sont lesbiennes, gays, etc., qui sont complètement pourchassées dans les pays religieux. Alors là, toute religion confondue. Il ne faut pas non plus nier que la religion, ce n'est pas l'égalité des hommes et des femmes. Toutes les religions, particulièrement les religions monothéistes, le christianisme, l'islam et le judaïsme, Ça, faut pas le nier.
Je vous propose alors de passer à l'idée suivante. Merci en tout cas pour vos réponses. Pourquoi la règle concerne-t-elle principalement le corps des femmes et beaucoup moins celui des hommes ?
C'est absolument juste que c'est toujours le corps des femmes qui est un peu l'objet du scandale, quoi. Enfin, je pense que ça nous oblige à revenir sur qu'est l'oppression des femmes, ce qu'en sont les racines et les mécanismes. On n'est pas obligé de se lancer sur depuis quand ça existe, etc. Bon, le patriarcat est extrêmement ancien dans les sociétés humaines. On ne va pas revenir sur les origines qui sont discutées, discutables, c'est passionnant. Mais regardons ce qui se passe avec là où on vit, les conditions dans lesquelles on vit, qui est le capitalisme. Le capitalisme, en fait, il a utilisé ce patriarcat qui existait pour le remodeler selon ses besoins de capitaliste. Et ses besoins du capitalisme, il est de trouver la main-d'œuvre au moindre coût, puisque c'est sur la différence entre ce qu'il paye pour la main-d'œuvre et ce qu'elle lui permet de faire comme enrichissement. C'est ça le mécanisme du capitalisme. Hein. Et donc d'avoir cette main-d'œuvre au moindre coût. Comme disent les féministes, bon, c'est très important la production. Mais pour faire la production, il faut des producteurs et des productrices. Et qui produit les producteurs et les productrices? Et pour nous, c'est cette question, en tout cas pour le courant féministe auquel moi je me rattache, c'est cette question de ce qu'on nous on appelle la reproduction sociale, mais précisément la production des producteurs et des productrices, la production des humains et des humaines, qui est au cœur de la façon dont le capitalisme va utiliser le patriarcat. Et donc, il y a une féministe qui dit ils appellent ça de l'amour. C'est la meilleure façon d'avoir du travail gratuit, en fait. Tout ce travail de production, de reproduction, d'éducation des enfants, de soins, enfin tout ce qui permet de retourner au boulot le lendemain, c'est-à-dire le fait d'avoir pu manger, dormir, se laver, se reposer, etc. Tout ça est produit par du travail. Et si ce travail est produit gratuitement, eh ben ça permet aux capitalistes de payer moins cher la force de travail. Et donc là, on voit bien que cette question de l'oppression des femmes et de leur assignation à ce travail gratuit est quelque chose d'absolument essentiel pour le capitalisme. C'est pour ça que pour nous, on ne peut jamais relativiser la lutte féministe. C'est-à-dire une lutte anticapitaliste qui serait aveugle, ou enfin, qui ne verrait pas des deux yeux en même temps cette oppression des femmes, eh bien, elle ne comprendrait pas le mécanisme de domination plurielle qu'est le capitalisme. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut inscrire pourquoi l'oppression des femmes. Pourquoi c'est quelque chose de si important de maintenir les femmes dans cette assignation-là. Et la violence, sous toutes ses formes, c'est l'outil de cette domination, parce qu'il n'y a pas de domination sans violence. Et ce qui est extraordinaire, ce qui est en train de se passer dans le monde, alors moi je m'énerve toujours quand on me dit « Ah, c'est MeToo ». Non, c'est pas MeToo. C'est d'abord Niuna de Menos, c'est-à-dire le mouvement qui est né en Amérique latine et pas dans les couches les plus privilégiées aux États-Unis. Bon, je ferme la parenthèse de lutte contre les violences, ce qu'on appelle maintenant les violences sexistes et sexuelles, mais d'abord contre les féminicides, contre le fait d'être tué parce qu'on est une femme ou une minorité de genre, parce que les trans payent cher dans ces violences-là. Ce mouvement mondial, qui se lève contre les violences, est quelque chose qui vient percuter ce système de domination. Faut pas minimiser ce qu'on a fait bouger. Parce que ça, c'est pas l'effet du progrès qui que quoi, comme ça, gentiment, doucettement, avec des petites mesures de parité par-ci, des petites mesures d'égalité par-là, nous amènerait gentiment vers l'égalité. Non, ce sont les luttes des femmes, ce sont les mobilisations, ce sont les féministes qui ont fait changer ça. Et c'est peut-être ça qui a fait le plus changer de choses dans le monde, quand même, si on prend un peu de recul. Voilà. Et c'est dans ce cadre-là que l'utilisation du corps des femmes, la chosification des femmes va venir s'inscrire. Donc c'est important de lutter contre toutes les manifestations. Et tout ce qu'on arrache comme droit, c'est absolument essentiel. Il ne faut rien lâcher, jamais rien lâcher. Mais globalement, c'est un système qu'on a à faire et un système qui mêle étroitement le capitalisme et le patriarcat.
Mais dans l'idée en fait de la population, quand on parle du fait que c'est une forme d'injonction qu'on donne qu'aux femmes, parce que selon eux, on n'impose pas à l'homme de se couvrir, c'est ça en fait, c'est en ça où ils ne voient pas la partie féministe du port du voile.
Mais la façon de s'affirmer contre une oppression, elles peuvent être extrêmement diverses. Voilà. Et c'est vrai que, par exemple, dans un certain nombre de cas, comme l'a expliqué Maria et Marie-Vonne, quand on est dans une situation qui est une situation d'être dans une population surexploitée, mal logée, mal considérée, stigmatisée, il y a plein de façons de résister à ça. Il y a plein de façons de trouver des solidarités. Et il y a plein de façons de dire « on est comme ça, vous ne nous réduirez pas, vous ne nous ferez pas disparaître ». le voile peut aussi être utilisé comme ça, comme une affirmation d'identité, mais une identité de résistance. Et il faut être capable de reconnaître ça. Juste un tout petit truc, je pense que pour certaines générations de féministes françaises, parce que cette question du foulard, quand même, il faut quand même avouer qu'il n'y a qu'en France que ça se pose avec cette, je ne sais pas comment dire, cette dinguerie, les enjeux qu'il y a derrière. Je pense que pour beaucoup de femmes, il y a eu, au début de leur radicalisation féministe, quelque chose qui se dressait dans une société qui était profondément marquée et dominée par le catholicisme, qui était allée à l'école privée, qui avait été comme ça, dans leur famille, assignée à la religion catholique avec tout ce que ça voulait dire de ne pas avoir le droit de choisir. C'est des générations de lutte autour des questions de contraception, d'avortement, et tout ça se faisait contre l'Église catholique. Et d'une certaine manière, moi ça m'a frappée hein, dans les premiers débats qu'il y a pu y avoir autour du foulard, c'était sans doute les discussions dans lesquelles j'ai entendu le plus les femmes réinvestir leurs histoires personnelles. C'est-à-dire, moi, je me suis battue contre les curés, moi, je me suis battue contre la religion catholique, etc. Et en gros, c'est un peu pareil aujourd'hui. Ben non, c'est pas pareil. C'est pas pareil quand on est confronté à une religion qui est la religion dominante et qui est la religion des dominants. Bon, et c'est vrai qu'il y a en France toute une histoire de lutte républicaine contre la domination de l'Église catholique et contre son antisémitisme et tout ça. Et c'est très, très important. Mais plaquer sa propre histoire sur d'autres réalités, c'est ça qui ne va pas. Là encore, je reviens parce que c'est une obsession, commençons par écouter les premières concernées et à essayer de comprendre les premières concernées. Et on voit que ça n'est pas la même chose quand on est dans une religion qui est une religion d'une minorité, et surtout de la fraction de la population qui est dominée, qui est surexploitée, qui est stigmatisée. Ce n'est pas la même chose, et il faut être capable de remettre dans le contexte.
Oui, je voulais simplement rajouter qu'il faut le reconnaître, ça fait vraiment débat dans le mouvement féministe, cette question-là, comme ailleurs dans la société. Hein. Là, vous l'aurez compris, toutes les trois, nous sommes pour le respect de ces femmes-là, des femmes qui ont décidé à un moment donné de leur vie de porter le foulard, le voile, enfin bon. Pourquoi ? Parce que nous sommes profondément convaincus qu'il y a aujourd'hui en France, effectivement, Christine l'a dit, une focalisation outrancière, mais vraiment outrancière, sur cette question-là. Et au nom de cette fameuse laïcité à la française dont je parlais tout à l'heure, qui est largement instrumentalisée. Je crois que si on ne mesure pas le degré de focalisation, de stigmatisation de ces femmes, et partant de là de la population de culture, d'origine musulmane en France, si on ne prend pas la mesure d'une discrimination fondamentale, outrancière, scandaleuse, qui s'appelle le racisme et l'islamophobie aujourd'hui, je crois qu'on ne pourra pas sortir de ce débat par le haut. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une prise de conscience à avoir sur la réalité de ce phénomène raciste et islamophobe qui existe de façon très spécifique, très particulière en France. Et nous ne défendons pas les femmes voilées parce que ce serait féministe, non. Nous défendons simplement le droit de ces femmes de s'exprimer, d'exprimer ce qu'elles sont, ce qu'elles veulent être, et d'enlever le voile et le foulard quand ça leur chante. Nous, on dit simplement, fichons-leur la paix, tout simplement. Et parlons des vrais problèmes aujourd'hui qui se posent en France de discrimination et de stigmatisation très très forte d'une certaine catégorie de la population.
Mais pourtant, dans l'idée quand même de certains, le port de voile est mis pour, j'ai envie de dire, désexualiser la femme, pour le protéger des regards salaces des hommes, le regard désireux des hommes. Alors, c'est pas un outil féministe ?
Enfin, moi, je ne pense pas que le voile soit un outil féministe. C'est un fait et qu'il faut prendre comme tel. Je veux dire, on n'a pas à juger les femmes qui le portent. Non pas parce que c'est féministe ou ce serait féministe. Non, c'est pas spécifiquement féministe. Non, cacher le corps des femmes de façon volontaire est anti-féministe. Mais encore une fois, ça existe dans toutes les religions et notamment les trois trois religions monothéistes. Cette volonté d'effacer les femmes, de les reléguer à la sphère privée, de cacher toute sexualisation possible du corps des femmes, etc. Ça existe dans toutes les religions. Il se trouve qu'aujourd'hui, la religion musulmane étant particulièrement stigmatisée en France, on assiste à des phénomènes de repli identitaire. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je reprends ce terme parce que je trouve qu'il est parlant. Ça dit bien aussi l'aspect dangereux de ça, de ces replis, hein. Mais en même temps, il faut parler avec ces femmes, ne jamais les ostraciser, parler avec elles et surtout, surtout, comme le disait Christine, les laisser s'exprimer là-dessus. C'est à elles de parler, de dire pourquoi elles ont choisi à un moment de leur vie, parce que ça ne dure pas toute la vie forcément, pour chacune de ces femmes-là, pourquoi elles ont choisi de porter le voile. Écoutons-les. Et je pense qu'on aurait beaucoup de surprises à les écouter vraiment parler.
La première des choses, c'est quand même de répondre présente. C'est évidemment important de se parler, de se rencontrer, mais si on veut que ça, ce soit possible, la première des choses, c'est de répondre présente chaque fois qu'il y a une mobilisation contre l'islamophobie et d'être là et de rien laisser passer. C'est-à-dire que les multiplications à des durcissements des textes islamophobes, les mobilisations, elles ne sont pas toujours à la hauteur. Pour nous, c'est extrêmement important de se retrouver dans les mobilisations contre cette islamophobie et ce racisme d'État. C'est ça qui va ouvrir la possibilité de construire des mobilisations ensemble, de parler d'émancipation ensemble et de construire véritablement nos solidarités féministes. Mais il n'y a pas de solidarité s'il n'y a pas d'abord une prise de position et une activité réelle pour lutter contre ce racisme systémique qui pourrit véritablement la vie d'une grande, grande partie de la population, de celles et ceux qui vivent ici. Il faut quand même pas oublier ça. Il y a une imprégnation raciste. Il y a des politiques racistes. Il y a un durcissement de toutes les politiques que j'ose même pas appeler les politiques d'asile, puisque d'asile, il n'y en est quasiment plus question. Commençons par répondre présente à toutes les mobilisations antiracistes. C'est ça qui peut ouvrir la possibilité de construction de lutte en commun, y compris de lutte en commun contre les violences qui sont faites aux femmes. Parce qu'après, vous dites, ça peut être une protection contre les violences. Alors ça, les stratégies d'autodéfense, d'évitement par rapport à la violence sexiste qui est omniprésente, elles sont multiples. Parfois, le port du foulard peut en faire partie. Mais c'est aussi le jogging trop grand, vous savez, où on ne vous voit même plus à l'intérieur. Il y a plein de choses. Nous, on défend plutôt la solidarité, l'autodéfense collective, des choses qui sont plus brillantes, parce que notre féminisme, c'est aussi un féminisme joyeux, pluriel, coloré.
Oui, simplement par rapport à la remarque des auditeurs qui ont posé les questions, comme tu l'as fait remarquer tout à l'heure, le voile, c'est pas un torchon qu'on se met pour cacher son corps. C'est beaucoup plus subtil et compliqué que cela. Moi, j'ai fait pendant longtemps ma carrière cours à un endroit où les femmes peuvent venir voiler, c'est à la fac. Je peux te dire qu'il y avait chez certaines une élégance, mais extraordinaire. Moi, j'en étais baba devant l'élégance, et y compris l'envie de... Bah oui, l'envie de séduire, mais c'est leur droit. Et là, c'est bête parce que bon, on n'a pas préparé, on ne fait pas une conférence, hein, mais il y a un texte remarquable de Frantz Fanon sur le voile. Parce qu'il l'a écrit quand il était en Algérie. Et sur le fantasme du colon face à la femme qui se cache pour mieux qu'on la désire, voire mieux que peut-être on la viole aussi. Le fantasme du colon occidental, et particulièrement français en ce qui concerne l'Algérie, sur le voile. Je dirais simplement qu'on est dans une phase de mépris généralisé, dont les femmes sont les premières de corvée, les premières concernées, mais c'est du mépris généralisé du capitalisme cannibale vis-à-vis de toutes les populations qu'elles exploitent, qu'elles surexploitent. Et enfin, l'histoire du voile, alors, il ne faut pas leur permettre, parce qu'on leur permet, elles vont toutes se voiler. Voilà. On nous a fait la même chose, d'abord, c'est pas vrai, l'université, il n'y en a pas plus, il y a 20 ans que maintenant, hein, dans le hall, enfin, il n'y a pas plus de femmes voilées, je ne sais pas combien il y en a. Elles le décident ou elles le retirent, enfin, peu importe. On a eu le même mépris pour l'avortement et la contraception. De ces messieurs, les sénateurs, pour ne pas les nommer, toujours les mêmes. Si on leur donne la pilule, elles vont coucher avec n'importe qui. Vous vous rappelez, les filles ? Si on leur donne l'avortement, elles vont s'en servir comme moyen de contraception. Ils ont déjà vu une femme qui allait avorter, qui utilise ça comme moyen de contraception. C'est humiliant, humiliant. Et c'est toujours l'humiliation qui prônent dans leur bouche, que ce soit le voile, que ce soit la contraception, que ce soit l'avortement, c'est le corps des femmes.
J'aimerais conclure le débat en évoquant la dernière idée qu'ont les gens en général qui sont contre le port du voile. En France, après plus d'un siècle de lutte féministe pour libérer le corps des femmes, certains voient dans la progression du voile chez les jeunes générations une forme de régression. Qu'en dites-vous ?
C'est-à-dire que les choses ne se posent pas dans ces termes-là. Oui, on peut dire que cacher le corps des femmes est une forme de régression. Oui, moi je le dis volontiers. Mais encore une fois, il faut parler de pourquoi on en est là. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à cette forme de régression, en effet ? Encore une fois, c'est bien parce qu'en France, il y a une islamophobie galopante qui conduit certaines femmes à se revendiquer d'une identité qui est bafouée, qui est insultée tous les jours. C'est à la fois une régression et pour ces femmes peut-être une façon de se battre aussi. Hein, voilà. Il faut sortir de cette façon de poser le problème. C'est-à-dire il faut accepter que des femmes aujourd'hui s'habillent de cette façon-là et continuer à être à leur côté. Nous devons continuer à être ensemble et à nous battre ensemble pour nos droits, pour le droit de toutes. Mais ce n'est pas en les ostracisant, en disant qu'elles sont encore plus opprimées par leur religion que par le capitalisme, par exemple, ou le patriarcat, que l'on va pouvoir sortir ces femmes-là d'une soi-disant oppression. Non, il faut rester ensemble et se battre pour le droit de toutes les femmes.
T'en parlais de régression sur les droits des femmes, moi j'entends destruction des services publics, pas d'avancée sur les services publics de la petite enfance, pas d'avancée sur les systèmes de santé, sur les systèmes de prise en charge des personnes plus âgées et dépendantes. Et ça repose toujours sur les femmes. Et tous ces travaux de soins déqualifiés, ils reposent non seulement en particulier sur les femmes, mais en particulier sur les femmes racisées. Oui, là, on peut parler effectivement de régression, mais comme on peut parler de régression quand on n'a pas les moyens réels d'avoir des services qui permettent d'assurer les IVG, les avortements dans des bonnes conditions, quand on ne permet pas d'avoir des politiques de santé qui soient réellement des politiques de santé, quand on revient en arrière sur toutes les éducations à l'égalité, à la sexualité, dans les écoles et dès le plus jeune âge. C'est là les racines de la régression. Alors traitons ça et puis peut-être qu'on pourra discuter du reste après.
Merci beaucoup mesdames. Je voudrais vous laisser la parole si vous avez un mot de fin.
Moi, une petite séance de publicité là, puisque Attaque, on va bientôt organiser notre prochain café qui ne sera pas un café féministe autant que tel, bien que, sur la guerre à la guerre, c'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui, la destruction de la planète, les budgets militaires qui, comme vient de le dire Christine, de toute façon font la destruction de tous les services publics, les services sociaux, etc. Je dirais qu'aujourd'hui, l'Europe est en train de fermer les vannes de tout et même les universités n'ont plus de quoi fonctionner. Qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ferme à la rentrée prochaine ? Le département, le master de musicologie à l'université de Rouen, parce qu'elle n'a plus les moyens ? Bah oui, on ne peut pas mettre des centaines de milliards pour préparer la guerre avec la destruction de l'environnement qui va avec et s'occuper des gens. Et donc la maltraitance dont a parlé Christine et Maria, on est en plein dedans. Donc ça sera le prochain café d'Attaque et qui d'ailleurs se passera sur qu'est-ce qui se passe en termes d'usines d'armement en Normandie avec des syndicalistes. Ça sera le 26 mars à 18h à la Maison Saint-Sever. Et dans le féminisme anti-guerre, il sera question aussi d'une sociologue extraordinaire qui s'appelait André Michel et qui a publié un ouvrage, Les féministes contre la guerre. Voilà.
Donc le rendez-vous est pris le 26 mars dès 18h à la Maison Saint-Sever. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, mesdames ?
Petit salut à une lutte qui a en ce moment qui a complètement à voir avec ce qu'on vient de discuter, qui est véritablement à l'hôpital public, enfin à l'AP-HP à Paris, la chasse aux soignantes sur ce qu'elles portent pour se couvrir les cheveux. Voilà, dans les services de santé, il y a beaucoup d'obligations de port, de un foulard, un calot, enfin quelque chose, voilà. Et il y a véritablement une chasse aux soignantes supposées musulmanes sur le fait que peut-être que leur calot dissimulerait en fait un signe religieux. Franchement, quand on voit la façon dont sont traités les soignants et les soignantes, alors que la santé devrait véritablement être une priorité, l'énergie qu'ils dépensent à pourchasser les femmes. Voilà, c'est juste une illustration, je trouve,